Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Alors avant de vous parler du sujet du jour, j'ai un service à vous demander. Laissez-nous, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes. C'est vraiment ce qui permet à Droit Devant de se déployer davantage, de valoriser le travail que ce podcast demande, d'aller sans cesse à la rencontre d'invités plus prestigieux et de nouveaux auditeurs. Bref, de faire grandir cette communauté qui, pour certains d'entre vous, sont là depuis le tout début. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur Droit Devant Insaf El Hassini. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Insaf est une ancienne avocate, aujourd'hui juriste internationale. C'est après avoir lu le livre de Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, qu'Insaf décide, il y a 6 ans, de rejoindre le mouvement Lean-In. Néanmoins, aucun réseau actif n'existe à Paris à cette époque. Qu'à cela ne tienne, Insaf a une force et une détermination à toute épreuve. Elle va décider de lancer son propre cercle à Paris. Insaf est donc aujourd'hui à la tête de Lean-In France, une ONG qu'elle dirige et qui œuvre à la promotion et à l'avancement de la carrière des femmes. Elle anime aussi un podcast, Ma Juste Valeur, première formation et premier podcast qui apprennent aux femmes à comprendre, déterminer, assumer puis défendre leur juste valeur sur le marché du travail. Dans cet épisode, Insaf nous parle de l'origine de son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes, de ce qui l'a amené à créer Lean-In France après avoir découvert les travaux de Sheryl Sandberg. Elle revient sur l'écart qui se creuse entre les salaires des femmes et des hommes au moment de la première maternité et du décrochage qui se produit dans la carrière d'une femme à ce moment-là, du plafond de verre qui s'y installe ensuite, durablement. Insaf nous donne de précieux conseils sur la manière de répondre à des questions intrusives qui seraient posées à une femme lors d'un entretien d'embauche sur de potentiels projets de maternité. Elle explique aussi de manière très concrète comment négocier une augmentation de salaire lors d'un retour de congé de maternité. Eh bien, sachez-le, mesdames, une augmentation post-maternité se prépare bien avant son départ. Et Insaf vous dit tout sur le sujet. Elle nous donne aussi son avis sur l'allongement du congé paternité et revient sur les initiatives vertueuses qu'elle rencontre en faveur de la parentalité dans la société d'aujourd'hui. Un épisode inspirant dans la détermination d'Insaf, aujourd'hui jeune maman et communicative. Je vous laisse donc écouter cet épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Insaf.
Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu?
Merci, je vais bien. Bienvenue sur Droit Devant. Je suis contente de te recevoir enfin.
Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là.
Alors Insaf, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ou celles qui ne te connaîtraient pas d'ailleurs, donc tu es juriste, tu as exercé en tant qu'avocate et aujourd'hui tu es aussi à la tête de Lean-In France. Donc Lean-In, c'est un mouvement qui a été lancé par Sheryl Sandberg, qui est donc la directrice des opérations chez Facebook, et c'est un mouvement qui consiste à promouvoir la carrière des femmes, leur évolution professionnelle. Et j'ai lu quelque part que c'est après avoir donc lu le best-seller de Sheryl Sandberg, qu'on pourrait d'ailleurs traduire par « en avant toutes », que tu avais décidé de rejoindre toi aussi ce mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton engagement en faveur des femmes?
Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est une très bonne traduction puisque la traduction du livre, c'est en avant toutes, du livre de Sheryl Sandberg en français. Moi, j'ai découvert Lean-In en 2014 et c'était dans une période de ma vie où je revenais un peu de l'étranger, je débarquais un petit peu à Paris, j'étais à Paris depuis un peu moins de 2 ans et je me remettais un petit peu dans la vie francophone par opposition à la vie anglophone et la culture anglophone. Et pour moi, j'ai été élevée dans une famille qui est très féministe, avec des parents très ouverts, très tournés vers l'éducation positive. Et pour moi, les biais de genre n'existaient pas en fait. Pour moi, ça n'existait vraiment pas. Pour moi, le féminisme, je me ressentais féministe, mais en fait, je ne posais pas vraiment ce mot-là sur ce sentiment-là et ce ressenti, parce que pour moi, être féministe, c'était les combats des années 70. On avait brûlé nos soutiens-gorges, maintenant on avait le droit d'habiter seul, on avait un compte bancaire, on avait le droit de vote. Et pour moi, les inégalités qui étaient basées sur le genre, c'était un peu des affabulations d'hystériques. Jusqu'à ce que j'en ai vécu moi-même et jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'est pas des affabulations, c'est une réalité qui circule dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail de manière très générale.
D'accord. Donc, c'est une confrontation à titre personnel ou professionnel qui t'a conduit à cet électrochoc combiné à cette lecture. Et du coup, tout ça, ça a sensibilisé à cette cause et a suscité ton engagement en réalité, c'est ça ?
Moi, je suis issue d'une famille multiculturelle, mais si on devrait se concentrer sur deux origines, je suis tunisienne et italienne. Donc très ancrée dans la Méditerranée, et tous les étés, j'allais en Tunisie. Et j'étais confrontée en Tunisie aux véritables inégalités, entre guillemets quand je dis véritables, en tout cas celles qui sont le plus criantes. Et du coup, à chaque fois que je revenais en France, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'être ici ? Qu'est-ce que j'ai de la chance d'être dans une famille où mon père est hyper ouvert, où ma mère est hyper ouverte, où on ne fait pas de différence dans l'éducation entre ma sœur et moi et mon grand frère. Et donc, pour moi, si tu veux, pour moi, en France, on n'était pas confronté à ce genre de choses. Et en plus, dans le monde professionnel, on a accès à des études qui supérieures, qu'on soit peu importe le genre, etc. Et on le remarque, les filles et les femmes sont beaucoup plus assidues sur les bancs de la fac, ou en tout cas dans l'enseignement supérieur que les garçons. Donc pour moi, je ne me rendais pas vraiment compte de ça, jusqu'au jour où j'ai été confrontée à ça. Big time, comme D'accord. on dit.
Alors, justement, donc toi, tu es aussi l'animatrice, je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'un podcast qui s'appelle Ma Juste Valeur, qui est consacré à la négociation de la rémunération, qui donne du coup aux femmes des conseils sur la manière de gérer leur carrière, de mieux négocier leur rémunération. Aujourd'hui, c'est un petit peu lié à ça, ma sollicitation, c'est aussi en rapport avec donc, la maternité, dont tu as accepté, sur le sujet sur lequel tu as accepté de venir nous parler. C'est un peu lié aussi à ta récente expérience, je ne sais pas si les auditeurs l'entendent, mais on entend un petit peu au loin ton fils Joseph qui est venu avec nous, nous rejoindre. La maternité, c'est souvent un moment où il y a un écart qui se creuse entre les femmes et les hommes dans l'évolution de la carrière. On ne peut pas le nier, et d'ailleurs c'est l'objectif des récentes lois qui sont intervenues et qui contraignent, obligent aujourd'hui les employeurs à proposer aux femmes les mêmes augmentations que celles qui ont été consenties durant leurs absences en raison notamment du congé maternité. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques dans ton quotidien, cet écart, ce fossé qui se creuse entre les femmes et les hommes à ce moment clé de la carrière d'une femme ?
Alors oui, moi c'est quelque chose que je remarque, c'est quelque chose que j'ai observé et c'est même quelque chose qui a été théorisé, pas par moi évidemment, par plusieurs chercheurs et chercheuses, puisque les études démontrent que le véritable décrochage dans la carrière d'une femme se réalise à partir de la première maternité, qu'il s'agisse du salaire, de l'évolution de carrière, ce qu'on appelle de manière très générale le plafond de verre, en réalité il s'installe à partir de la première maternité. Et après, donc, il s'installe à partir de la première maternité et ensuite, vraiment, il se renforce pour devenir quasiment imbrisable au fur et à mesure des nombreuses maternités, des autres maternités qu'une femme peut avoir. Donc ça, c'est la première chose. C'est un vrai constat, c'est une réalité. Encore une fois, ce n'est pas des affabulations de femmes hystériques qui en veulent toujours plus. Et ça, on l'aperçoit donc dans la carrière et l'évolution de carrière d'une femme. Et de manière générale, le salaire évolue avec l'évolution de carrière des femmes. Et en fait, dans l'inconscient collectif du monde de l'entreprise, le monde de l'entreprise part du postulat qu'à partir du moment où une femme a décidé d'accéder à la maternité, d'entrer dans cette tranche de vie, forcément, elle entrait dans une présomption de désintéressement de sa carrière. Et de non-commitment, comme on dit. Donc, soudainement, parce qu'elle a décidé d'avoir un enfant ou parce qu'elle a décidé d'avoir un autre enfant ou des enfants, tout de suite, ça implique qu'elle va être moins engagée sur son poste, moins motivée et moins intéressée par son évolution de carrière. Et ça, c'est quelque chose que j'observe vraiment et c'est vraiment le retour d'expérience que beaucoup de femmes me font.
Alors que c'est complètement contradictoire, en ce sens que
Moi, je fais plutôt le constat qu'en général, quand dans une journée, on a beaucoup de choses à gérer, ben, finalement, on est beaucoup plus productif. Et je ne sais pas si tu le partages, mais la maternité, pour moi, c'est véritablement un atout dans la carrière des femmes, de ce point de vue-là notamment. Mais encore faut-il que l'environnement soit assez mature pour l'environnement professionnel, je veux dire, soit assez mature pour le percevoir et apte à l'entendre, finalement.
En fait, je pense que l'environnement professionnel, tout l'écosystème professionnel est mature, elle le voit très bien. Mais je pense que ça ne l'arrange pas de le voir de manière officielle. Parce qu'on l'observe, les femmes, dès qu'elles accèdent à la maternité, elles deviennent mamans, immédiatement, j'ai le sentiment qu'on devient tourné vers l'efficacité. Les femmes qui travaillent et qui ont des enfants, le maître mot, c'est efficacité. Il faut rentrer les dossiers dans 4 heures, si on a 4 heures, parce que derrière, on sait qu'on a des autres obligations, on a la deuxième journée qui commence, et du coup, on n'a pas le temps de prendre 10 minutes à bavarder.
De procrastiner sur tel ou tel sujet.
Absolument. Donc, le maître mot des femmes, c'est efficacité. Et on s'aperçoit également, ça c'est un retour d'expérience que j'ai, plusieurs femmes qui sont au 4-5e, te disent que finalement, elles font le travail de 5 jours sur 4 jours. Et du coup, elles se sentent un peu frustrées de finalement être payées que 80%, alors qu'elles seraient censées normalement être payées 100%, parce que le travail, lui, est accompli. Le travail, en tout cas, sur 5 jours, est accompli. Donc, à mon sens, le monde du travail est encore, parce que ça l'arrange finalement, c'est quelque chose qui arrange le monde du travail, c'est quelque chose qui arrange les employeurs, de se dire que les femmes finalement ne sont plus très intéressées par leur carrière à partir du moment où elles accèdent à la maternité, parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser tomber leurs privilèges et tous les privilèges qui sortent un peu qui découlent vraiment de cette affirmation-là.
Et surtout que ce 4-5e, quand tu es une femme et que tu le sollicites, et c'est un peu là d'où vient l'ambivalence, je trouve. Au début, quand tu le fais pas de manière sacrificielle. Alors peut-être pas tout le monde, effectivement, mais tu as aussi envie de passer davantage de temps avec ton enfant. Donc tu le fais en ayant tellement envie de le faire que tu le vois pas comme un sacrifice. Mais néanmoins, c'est en fait la vision que le monde du travail te renvoie qui va le convertir en un sacrifice finalement. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais en réalité...
Si, c'est très clair en réalité et tu étais vraiment dans le juste. Une femme, quand elle décide de demander un 4-5e, c'est pas parce qu'elle est moins intéressée par sa carrière. Au contraire, c'est parce qu'en fait, elle ne peut pas étendre le temps dans son agenda et qu'elle essaye de tout faire rentrer dedans. Et elle se dit, si j'abats le travail que j'ai l'habitude d'abattre sur 5 jours, sur 4 jours, et me libérer une journée pour profiter de mon enfant, je vais pouvoir tout faire rentrer en même temps dans cet agenda-là qui est déjà très serré. En revanche, et c'est ce qu'on observe, le message qu'entend l'employeur, c'est « je demande un 4-5e parce que je ne suis plus intéressée par ma carrière ».
Ouais, je suis démotivée.
J'ai
décidé de me la couler douce, quoi.
Ou même si je suis encore motivée, j'ai pas envie de me la couler douce parce que c'est pas dans mon caractère, ce n'est plus ma priorité. Mon poste, le poste que j'occupe actuellement n'est plus ma priorité. Alors que c'est faux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je conseille à plusieurs femmes qui n'arrivent pas à obtenir une augmentation de salaire, de leur salaire fixe, de demander d'obtenir un 4-5e rémunéré au plein temps.
D'accord. C'est comme alternative.
Comme alternative.
À l'absence d'augmentation.
Exactement.
Ouais, ouais, malin. Et alors, du coup, c'est vrai que le monde du travail renvoie quand même un regard souvent négatif sur la maternité. Malheureusement, on a des expériences désagréables, clairement. Quand on annonce une grossesse, c'est pas forcément un événement heureux pour tout le monde. On le déplore encore souvent. Et puis, il y a aussi ce moment des process de recrutement où parfois, eh bien, il se trouve que tu es enceinte ou que tu as des projets d'enfants et que tu peux être amenée à être interrogée sur ces questions qui relèvent quand même de l'intime. Est-ce que toi, confrontée à ces sujets-là, tu as développé, je ne sais pas, peut-être une manière de répondre à ce type d'interrogation ?
Oui, alors ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que justement, on a monté toute une formation pour apprendre aux femmes à mieux appréhender leur départ et leur retour de congé maternité et à demander, à vocaliser le fait qu'elles méritent une augmentation de rémunération à leur retour de congé maternité et de la préparer avant le départ du congé maternité. Et toute la méthode Ma Juste Valeur est basée sur deux piliers. Rationaliser et factualiser. Et en fait, quand on est dans une situation face à un recruteur qui nous pose une question qui, de base, est illégale, s'il nous demande si on a envie d'avoir des enfants dans les prochaines années, on est d'accord, je te la prends pas, c'est parfaitement illégal. En revanche, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas dire à un recruteur « ça ne te regarde pas » et on ne peut pas non plus... la difficulté, c'est de ne pas tomber dans un tsunami émotionnel. Parce qu'à ce moment-là, soit on s'énerve et on lui dit « non mais ça ne te regarde pas », soit on est dans un mode de soumission librement consentie, on va vraiment dans le sens un peu de l'agresseur. non, je ne veux pas d'enfant, surtout pas, ou on ment. Enfin, voilà, on est dans une position qui, de toute manière, est très compliquée. Donc, à ce moment-là, il est très important de rationaliser, de factualiser. Et moi, j'ai toute une bible de phrases pirouettes que j'offre aux femmes, qu'elles n'ont qu'à apprendre par cœur et à ressortir comme ça de manière très automatique, parce que du coup, ça désémotionnalise le sujet très rapidement. Et dans ce cas-là, moi, la pirouette que j'ai trouvée face à ce genre de situation, c'est de dire « je ne suis pas confortable à répondre à cette question, c'est un sujet sensible pour moi ». On en dit trop et pas assez en même temps. On dit qu'on n'est pas confortable et on dit que c'est un sujet sensible. On ne dit pas pourquoi que c'est sensible. Ça peut être sensible pour des milliards de raisons. Et finalement, notre interlocuteur ou notre interlocutrice décidera la raison pour laquelle on est sensible à ça. Mais la réalité, c'est qu'on, pour se sortir de cette situation qui est compliquée...
On met mal à l'aise l'interlocuteur qui pose une question illégitime.
Exactement. C'est pareil, d'habitude, on me pose souvent la question en me disant « oui, quelquefois, certains recruteurs demandent les bulletins de salaire ». Normalement, ils n'ont pas le droit de faire cette demande-là. Maintenant, s'ils les demandent et qu'on accepte et qu'on les communique librement, ils sont dans leur droit, il n'y a pas de difficulté. Et moi, je leur dis toujours, si un recruteur vous demande de communiquer les bulletins de salaire, le meilleur moyen de ne pas le faire et de lui répondre, c'est de lui dire, vous n'êtes pas sans savoir que cette pratique est illégale, je ne suis pas confortable à divulguer ces informations qui, pour moi, sont confidentielles. Et tu vois, on remet les choses à leur place, on ne s'engueule pas avec la personne en face de nous, on ne crée pas de conflit, parce que ce job, on le veut finalement. Si on est là et qu'on insiste, c'est parce que pour plusieurs raisons qui sont diverses et variées, on ne peut pas passer outre ce job-là, même si c'est que pour 2 mois. Donc l'idée, c'est d'avoir ce job-là, mais en même temps de défendre sa juste valeur sans passer par un conflit ni un tsunami émotionnel.
D'accord. Et alors, ça reste anecdotique de ton point de vue, ce type de comportement en entretien d'embauche, ce type d'interrogation qui mettent mal à l'aise, ou c'est malheureusement des dérives que tu constates encore trop souvent?
Alors je pense que la difficulté, et là où on s'aperçoit qu'aujourd'hui les biais de genre et les inégalités de traitement sont de plus en plus insidieuses, c'est qu'avant c'était frontal. Avant, on vous disait, vous venez de vous marier, on voyait que vous aviez une alliance au doigt, on vous demandait directement si vous vouliez des enfants et si vous aviez l'intention de faire des enfants. Maintenant, c'est plus insidieux. Quand on annonce une maternité, on a des réponses du style « tu peux pas me faire ça ». Ou on vous pose une question en vous disant « ah, mais vous comptez vous marier ? Félicitations, vous êtes mariée depuis longtemps. Alors, toujours pas de projet de bébé ?» Enfin, voilà, c'est très insidieux, on est plus dans la manipulation, dans le calcul, à essayer d'entrer dans le cerveau de l'autre.
Tirer des informations d'une manière un peu émotionnelle, quoi.
Exactement, et puis finalement, c'est assez dommage parce qu'il suffit d'être plutôt honnête et dire dès le départ, ben voilà, moi j'attends quelqu'un sur ce poste-là, qui soit sur un poste... 2 ans plein parce qu'on a un projet qui va durer 2 ans, ça va être difficile d'avoir une coupure, etc. Moi, je pense qu'on a tellement intérêt à être transparent avec ses interlocuteurs et ses employés en disant, bon, ben voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour une mission de 18 mois, j'imagine. C'est 18 mois plein, le rythme se sera soutenu, etc., etc. Est-ce que vous pensez que vous pourrez... tenir la mission plutôt qu'essayer par des chemins de traverse de savoir si la personne va être enceinte ou pas. Et puis, je pense qu'il faut aussi remettre un peu les pendules à l'heure et dire aux employeurs, on fait tout un pataquès sur les femmes qui partent en congé maternité. Le délai légal du congé maternité, c'est 2 mois et demi. Chaque année, quand les gens rentrent du ski, on a des ruptures des ligaments croisés et les personnes sont en arrêt maladie pour 5 mois. Et on n'en fait pas toute une histoire. Et on aménage leur temps de travail. Et on leur permet à l'époque de travailler en télétravail. Et on leur demande pas, vous comptez aller skier cette année ? Alors que tu as plus de chances de te rompre...
Statistiquement, ouais, d'accord.
Donc il y a vraiment tout un imaginaire et une manière de traiter les femmes et traiter la maternité. Et ça nous renvoie beaucoup aussi au contrat social qu'on a mis en place dans notre société et à la place de la femme qu'on a décidé de lui attribuer dans ce contrat social, qui est quand même vraiment, encore aujourd'hui... La place de la femme, c'est le foyer, qu'on le veuille ou pas. La réalité, elle est là, parce qu'à chaque fois que la femme essaie de sortir du foyer ou en sort, on a tendance à essayer de la remettre dans le foyer, en lui faisant subir des inégalités de traitement, des inégalités salariales, du harcèlement moral, etc. Donc elle est face, dès qu'elle sort un peu des clous, on la renvoie à la maternité et on la punit si elle refuse de suivre un peu ce schéma qu'on a tracé pour elle.
Et alors, justement, tu as commencé à aborder un petit peu le sujet tout à l'heure, mais lorsqu'on reprend son poste à l'issue d'un congé maternité, tu expliquais tout à l'heure que tu avais un certain nombre de formations dédiées à ce sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tout à l'heure tu nous as expliqué, tu nous as donné des clés et notamment une pirouette pour se sortir d'une question embarrassante au moment d'un entretien de recrutement. Maintenant, pour négocier une augmentation à un retour de congé maternité, est-ce que là encore tu peux nous donner deux ou trois bons réflexes que tu mets en place ou que tu conseilles aux femmes que tu coaches?
Bien sûr, bien sûr. Alors moi, la première chose que je dis pour vraiment bien négocier sa rémunération ou une augmentation de rémunération, il y a trois choses à faire. Déterminer ce que l'on vaut sur le marché de l'emploi et du travail, avoir une idée précise de la valeur monétaire de son profil. C'est rationaliser les choses. On connaît la valeur d'une baguette de pain sur le marché des baguettes de pain. On sait que chez Franprix, c'est 80 centimes d'euros. Chez un boulanger, c'est plutôt UP, c'est 1,20 €. Et personne ne remet en question la valeur de cette baguette-là. Donc, il est important que si les femmes comprennent qu'il est hors de question qu'on remette en question la valeur monétaire de leur profil, c'est-à-dire leurs compétences, leur expertise et leur expérience sur le marché de l'emploi. Déterminez donc ce que vous valez. Ensuite, déterminez ce que vous voulez. Il est important de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester dans cette entreprise? Est-ce qu'on a envie de partir de cette entreprise? Est-ce qu'on a envie de reprendre ses études? Est-ce qu'on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Au contraire, est-ce qu'on a envie de repartir dans le salariat? Est-ce qu'on a envie de dédier du temps à ses enfants ou un projet? Est-ce qu'on a envie de faire de l'équitation 3 jours sur 5? Bref, mon conseil vraiment, c'est se poser, faire ce travail d'introspection, parce qu'il est important de ne pas céder aux sirènes de la société. Là, tout le monde veut quelque chose de vous. La société vous dit à quoi vous devez ressembler. C'est cool de dire dans les dîners qu'on est entrepreneur, mais est-ce que c'est vraiment fait pour nous? Des fois, notre conjoint, nos enfants, nos parents attendent quelque chose de nous et ont cette idée de ce à quoi on doit tendre. Donc, il est important de fermer les yeux, fermer les oreilles, faire ce travail d'introspection et déterminer ce que nous, on veut vraiment. Une fois qu'on a déterminé ces deux choses-là, il faut juste apprendre à demander. Et c'est-à-dire, il faut faire attention à la sémantique, au verbatim utilisé, être suffisamment vigilante pour utiliser des éléments de langage neutre, pour ne pas... l'argent est un sujet très émotionnel, chacun a sa manière, a sa relation propre avec l'argent. Certains sont très à l'aise, d'autres un peu moins. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un nuancier qui est sans fin. Mais voilà, c'est très important d'utiliser un langage neutre pour arriver à son objectif, encore une fois, sans conflit et sans tsunami émotionnel. Et donc, moi, ce que je conseille aux femmes qui vont partir en congé maternité et qui veulent demander une augmentation, mais qui se disent « Oh, je ne peux pas demander une augmentation parce que l'année prochaine, finalement, je vais être absente 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, 6 mois, en fonction des conventions collectives. » Moi, ce que je leur dis, c'est que, attention, l'augmentation de l'année N est basée sur les résultats de l'année N-1. Donc que vous soyez enceinte aujourd'hui ou pas, que vous soyez rompu les ligaments au ski ou pas, importe peu, en réalité, votre augmentation est déterminée sur vos résultats, votre performance individuelle de l'année passée. Donc ça, c'est la première chose à faire. Déjà, se le dire à soi-même. Une fois qu'on est convaincu et qu'on a assumé ce constat-là, il faut apprendre à verbaliser tout ça et être maîtresse du timing. Moi, ce que je conseille en général, c'est de préparer un projet d'augmentation de rémunération 6 mois à l'avance. Pourquoi ? Parce que l'employeur doit tirer certains leviers, actionner certains leviers pour obtenir cette augmentation-là. Quelquefois, il doit peut-être demander un budget supplémentaire au RH, lui-même aller demander à ses supérieurs hiérarchiques une augmentation, une enveloppe dédiée, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui se demande vraiment en amont et qui se prépare vraiment donc en amont.
D'accord. Donc maintenant, on en vient un petit peu au congé paternité, parce que c'est vrai que depuis longtemps, les pays nordiques sont plus en avance que nous sur le sujet. Et récemment, on a une loi qui est intervenue en décembre dernier et qui prévoit un allongement de cette durée du congé paternité qui est désormais portée à 28 jours au lieu des 14 antérieurement. Est-ce que cet allongement du congé paternité va, selon toi, permettre d'arriver à un peu plus d'égalité entre les femmes et les hommes, ou dans la mesure où il s'agit finalement d'une durée qui est quand même pas encore égale à celle qui concerne le congé maternité des femmes, finalement l'incidence va pas être si révolutionnaire?
Moi, je suis convaincue que plus il y aura de l'égalité de traitement entre la mère et le père, et plus ça rayonnera dans le monde du travail. On s'en rend compte et on l'observe, les retours qu'il y a les retours des chercheurs qui ont effectué leur recherche dans les pays nordiques sont les suivants. on s'aperçoit que plus le père est impliqué dans la vie de l'enfant dès son plus jeune âge, et plus il aura des facilités avec l'enfant, plus il va développer un lien émotionnel, et plus il aura envie de passer du temps avec cet enfant-là. Ça, c'est une première chose. Et plus on habituera les entreprises à voir des pères partir quelques mois, des pères investis, des pères qui disent... On le voit de plus en plus aujourd'hui, et c'est tant mieux parce que finalement, on voit que les choses, que le monde évolue et que les choses changent, et c'est une très bonne chose. Mais moi, je suis intimement convaincue que plus on va permettre aux pères aussi de jouer pleinement leur rôle de père, et plus ça aura des belles incidences dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise. Parce que, par exemple, il y a un article qui est paru récemment sur le congé paternité dans la fonction publique, et on s'aperçoit que dans la fonction publique, les pères ne prennent que très rarement les 11 jours de congé paternité, parce que personne ne le fait dans le monde de l'entreprise. Et pour rebondir sur un de tes épisodes que j'ai beaucoup aimé, qui est celui avec Sandrine Carpentier, elle disait qu'il suffisait d'une personne pour instaurer une culture d'entreprise. Et du coup, si on a une personne dans le monde de l'entreprise, dans les différentes entreprises, qui vraiment impulse cette dynamique-là, on est certaine que ça va faire un effet boule de neige et ça sera dans un cercle très vertueux pour tout le monde.
Et alors, est-ce que toi, dans ton environnement, tu rencontres des entreprises qui mettent en place des initiatives particulièrement vertueuses sur le type, alors sur le sujet d'ailleurs de la maternité ou de la paternité? Je pense par exemple au Parental Act qui a été signé par notamment Mangopé et un certain nombre d'entreprises, Mon Docteur, je crois, Welcome to the Jungle, il me semble. Donc, des entreprises qui, d'elles-mêmes, ont décidé d'allonger la durée du congé paternité. Quelles autres, je ne sais pas si tu as fait une sorte de benchmark du marché, mais est-ce que tu as d'autres initiatives vertueuses que tu veux souligner aujourd'hui?
Alors oui, il y a plein d'autres initiatives vertueuses que j'aimerais souligner. Je pense que c'est plus facile, je veux juste préciser quelque chose, je pense qu'il est plus facile d'allonger le congé paternité spontanément dans la convention collective ou au travers le Parental Act qu'on inclut dans le règlement intérieur ou peu importe, en tout cas dans les documents qui gèrent la vie de l'entreprise. D'accord. Quand on est une start-up. Pourquoi ? Parce qu'on est une entreprise qui est jeune, mais vraiment très jeune. Donc voilà, on est vraiment dans l'air du temps et du coup, on est beaucoup plus sensible à ces choses-là et les choses peuvent se faire de manière beaucoup plus rapide. Parce que justement, la culture d'entreprise est beaucoup moins ancrée que l'éléphant, que peut-être une autre grande entreprise du CAC 40.
Qui se meut plus difficilement.
Exactement, qui se meut plus difficilement, qui a déjà sa culture d'entreprise, où il faut vraiment du temps pour faire... bouger les rouages. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a aussi d'autres entreprises qui sont des entreprises qui ne sont pas très jeunes, je pense notamment à L'Oréal, et qui font déjà beaucoup de choses pour justement... je ne suis pas certaine qu'ils aient signé le Parental Act, mais je sais de manière très certaine qu'ils ont allongé le congé maternité des femmes, par exemple spontanément. Maintenant, je pense qu'au-delà des grosses entreprises, à mon sens, la meilleure impulsion, et c'est toujours la même chose, on pense toujours qu'il faut partir pour faire des choses, il faut faire des choses très grandes. Et moi, je suis convaincue que commencer déjà dans son équipe à ne pas faire des réflexions aux femmes quand elles partent à 18h, alors qu'on sait pertinemment qu'elles se reconnectent ensuite, après avoir passé le tunnel, le bain, dîner, pipi, les dents et au lit. Déjà ne pas leur faire de réflexion, déjà partir du postulat que quand un père part à 18h, ne pas lui dire que c'est un homme soumis, c'est déjà une bonne chose, ne pas faire des réflexions qui sont désobligeantes, c'est aussi montrer l'exemple. Moi, je suis convaincue qu'on lead des peuples en montrant l'exemple. Je vais prendre l'exemple de mon entreprise dans laquelle j'évolue. Je suis dans une banque qui s'appelle UniCredit et j'ai la chance d'avoir un management extrêmement bienveillant. Et comme toute femme, quand j'ai annoncé ma maternité, je l'ai annoncé en tremblant. Et pourtant, j'ai tout le background qu'on connaît. Et j'ai eu en face de moi des personnes qui ont été extrêmement bienveillantes, qui m'ont fait comprendre en deux mots que c'était pas un problème, que ça le serait jamais, et qu'ils allaient s'organiser parce que de toute façon, l'entreprise avait tourné avant moi et elle tournerait après moi. Donc il fallait pas que je me fasse de soucis. Et je pense que rien que d'avoir cette attitude-là avec ces équipes, déjà, un, ça te permet d'avoir une femme qui rentre de congé maternité plus motivée que jamais. Plus motivée que jamais. De promouvoir des femmes qui rentrent de congé maternité, leur donner des augmentations sur les résultats de l'année dernière et leur dire que ce n'est pas parce qu'elles ont eu un enfant qu'aujourd'hui l'entreprise se désintéresse d'elles, parce que c'est ça qui se passe et pas l'inverse. en fait, on a en face de nous des guerrières, parce que vraiment, les femmes, on a une force qui est incroyable en nous. Et c'est vraiment une chance de pouvoir compter sur des équipes féminines qui sont prêtes à tout et vraiment à s'investir au maximum pour l'entreprise. Elle est là, tout l'élément motivationnel est là, finalement.
Renforcé par ce type de message.
Exactement.
Ouais, complètement. Et alors là, c'est vrai que dernièrement, on a vu le télétravail se développer, se démocratiser complètement avec la pandémie. Pour toi, quel est le constat qu'on peut en faire ? Est-ce que finalement, c'est intéressant pour les femmes ou pour les femmes enceintes ? Ou je me souviens de Corinne Hirsch dans un des épisodes du podcast qui disait qu'en réalité, le télétravail, c'était un peu un piège pour les femmes. Est-ce que tu fais ce constat, toi aussi ? Qu'est-ce que tu en penses finalement du télétravail ?
Moi, je ne sortirais pas de généralité parce que je pense que le télétravail, ça peut être une chance incroyable pour les femmes. Parce que moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une amie l'été dernier qui me disait que pour elle, le télétravail, c'était formidable parce que sur l'heure du déjeuner, elle pouvait emmener le petit chez le pédiatre. Elle pouvait travailler en lançant trois machines et elle n'avait pas à courir pour rentrer et préparer le dîner. C'est la réalité des femmes. Même si on est d'accord de dire que les hommes aussi préparent le dîner, tout ça, la réalité des femmes, c'est celle-ci. C'est le multitasking. Donc effectivement, si on prend le problème avec ce prisme-là, le télétravail, c'est une chance incroyable. Maintenant, le télétravail peut aussi être un piège pour les femmes, comme l'a très justement dit Corinne, parce qu'il y a la charge mentale, il y a la charge maternelle, et finalement, on est à la maison, donc cette machine, on peut la lancer, qu'est-ce qui nous en empêche ? Mais on est à la maison, en train de travailler. Donc en fait, ces frontières qui sont brouillées en fonction de sa personnalité, en fonction de son organisation personnelle, avec son mari. Et c'est là où la notion de juste valeur est importante aussi. C'est de savoir aussi dire à son mari ou à son compagnon ou à sa compagne, peu importe son partnership avec la personne qu'on aime, mais écoute, même si on sait tout de même que c'est dans les couples hétérosexuels où il y a le plus d'inégalités au niveau des tâches ménagères et de la logistique du foyer, mais de dire du coup à son conjoint ou à sa conjointe, écoute, là moi j'ai besoin de plus d'aide sur X, Y, Z, et de revoir un peu l'attribution et l'équilibre des tâches.
Ben écoute, merci beaucoup INSAF pour toutes ces réponses précieuses aux questions que je viens de te poser. J'ai une dernière question que j'aimerais à laquelle j'aimerais que tu répondes. Est-ce que tu peux nous donner ton analyse et nous dire comment tu vois le monde du travail de demain ?
Alors, merci pour cette question. Je ne suis pas sûre que je pourrais t'en faire une très bonne analyse. Moi, je suis quelqu'un de résolument optimiste, vraiment. Et vraiment, je suis très optimiste. Les choses évoluent. Alors, effectivement, on a la tête dans le guidon, donc on ne s'aperçoit pas des grands pas qu'on fait, mais parce qu'on fait des petits pas à chaque fois, et c'est des petits pas qui sont majeurs. J'aurais juste envie de dire quelque chose aux femmes qui nous écoutent et aux hommes aussi qui nous écoutent, mais surtout aux femmes. Il y a une citation de Simone de Beauvoir que j'ai accrochée en grand dans ma chambre qui dit « Méfiez-vous, il suffira d'une crise économique, sanitaire ou sociale, c'est peu ou prou ça, pour que les droits des femmes soient remis en question. » Et je pense que c'est cette fragilité-là. Les droits des femmes sont sur un fil de rasoir. Et je pense que tous les jours, il faut se battre pour s'assurer garantir ces droits-là, ne pas reculer, toujours aller vers l'avant, même si c'est des petits pas. Moi, j'ai le sentiment que c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, le monde du travail est plus à l'écoute des besoins des femmes. Il est en mouvance. C'est compliqué le changement. Très souvent, il se fait dans la douleur. C'est pas facile. Beaucoup d'entreprises sont dans la culpabilité plutôt que d'être dans la responsabilité. Et du coup, elles préfèrent mettre la poussière sous le tapis et faire l'autruche. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'arrêter d'opposer les gens et de les fédérer. Il faut fédérer les employés, les employeurs, les gouvernants, les gouvernés, les hommes, les femmes. Je pense qu'on ne les a suffisamment opposés et qu'il faut commencer par tous se fédérer pour aller de l'avant.
Bon, eh ben, merci beaucoup pour cette conclusion inclusive et merci pour ces réponses et ton intervention sur le podcast.
Merci à toi Marie-Laure, ça a été un plaisir.
À très vite INSAF, merci.